France Inter. .fr.
Bonjour, c'est la psychiatre et psychanalyste Catherine Bensaïd qui est l'invitée de Vous avez dit classique aujourd'hui. Auteure de nombreux livres traduits à travers le monde, elle a beaucoup écrit sur l'amour et ce que permet l'amour. Récemment, elle a publié un excellent ouvrage dans lequel elle interroge la liberté de la femme d'aujourd'hui en abordant toutes les étapes de sa vie, de la naissance à l'âge adulte, avec les questions que posent le corps, le désir, la maternité et l'amour, des récents accomplissements aux freins qui peuvent persister. Son livre, Libre d'être femme, est sorti en mars dernier chez l'Iconoclaste et Catherine Bensaïd y fait de nombreuses références à la musique. Mélomane passionnée, elle a grandi avec beaucoup d'opéra chez elle et continue d'en écouter, d'assister à des conférences et d'en parler en résonance avec sa pratique psychanalytique. Elle est avec nous pendant une heure pour vous faire découvrir les compositeurs qui l'entourent. Ravel, Puccini, Verdi, Wagner, Prokofiev et Bach sont au programme de Vous avez dit classique. Bonjour Catherine Bensaïd.
Bonjour.
Alors il est beaucoup question de joie, on le verra, de gaieté, de savoir prendre la vie à bras le corps dans votre dernier ouvrage, savoir s'emparer de sa propre liberté et la vivre pleinement à votre image. Alors pour commencer, je vous propose une danse d'origine bretonne, gaie et vive, extraite des suites bergamasques de Debussy. La quatrième, c'est le passe-pied, qui commence, vous savez, par cette main gauche qui lance la danse dans un staccato qui durera pendant presque tout le morceau. Donc staccato, les notes sont séparées bien clairement, comme pour nous inciter à ne jamais nous arrêter dans une très délicate interprétation par le grand Philippe Cassard.
Thank you.
passe-pied de la suite bergamasque de Claude Debussy, interprétée par Philippe Cassard au piano, pour parler avec vous, Catherine Ben Saïd, de votre rapport à la musique. Je crois que la musique compte beaucoup à la fois dans votre vie et dans votre approche de la vie.
Oui, c'est-à-dire que en venant pour participer à cette émission et parler de musique, je ne pouvais pas faire autrement que de parler de ma mère et de lui rendre hommage. Et donc de parler des musiques qui ont bercé ma jeunesse. Peut-être que je pourrais parler aussi de la musique maintenant, ce serait encore un petit peu différent. Mais j'avais envie de me souvenir de tout ce qu'elle m'a donné, je dirais, tout ce que nous avons partagé ensemble. Et je suis heureuse de lui rendre hommage.
Et tout ce qui peut passer par effectivement cette transmission de la musique et comment, à travers la musique, la vie passe. Hein, c'est ce qu'on lit clairement dans votre livre aussi.
Oui, et alors je dirais que plus que la musique encore, ce que ma mère m'a apporté, c'est l'interprétation. C'est une passion pour l'interprétation et les interprètes. Et je me disais finalement que La Callas ou Placido Domingo ou Fischia Dieskau ou Gondula Janowicz, en fait tous ces noms
les
ont
bercé. Interprètes beaucoup, hein, là, pour
comment
le coup. Des interprètes à la voix. Hein.
Oui, les interprètes beaucoup de la voix, ouais. Effectivement. Il y avait Yehudi Menuhin aussi, au violon. Il y avait donc des... Et je dirais que ces mots, ces noms-là, sont très mélodieux. Et ils ont... C'est une musique en tant que telle que j'ai entendue toute mon enfance. Et l'interprétation, effectivement, a compté. Parce que c'est l'interprétation des interprètes en musique, d'être aussi fidèle que possible aux musiciens, et ce que chacun peut apporter, ou chacune, par sa qualité propre, sa qualité unique. C'est l'interprétation au théâtre, et c'est l'interprétation en tant que psy. Donc finalement, c'est l'écoute, l'interprétation aussi dans le judaïsme. L'écoute et l'interprétation, c'est quelque chose qui a été extrêmement important.
Alors, qu'est-ce qu'on entend dans une façon de jouer? C'est la question que l'on pose beaucoup ici à ce micro. Alors, on va commencer avec Pierre et les loups de Prokofiev, interprété la fameuse interprétation de 1956 par Gérard Philippe, le comédien qui a marqué de manière indélébile cette pièce de Pierre et le loup.
Oui.
Vous, c'est quelqu'un qui compte alors comme interprète là.
Ah oui,
de
Gérard
théâtre.
Philippe, c'était. Alors, on avait aussi avec ma mère des idoles comme ça, et Gérard Philippe en faisait partie. En plus, on a eu la chance de le rencontrer à Mathuel. Il a simplement soulevé son chapeau en passant en voiture et je crois qu'on était toutes les deux écroulées sur la route. Et j'ai le souvenir aussi de Gérard Philippe à Gassin avec il avait une chemise blanche et il était avec sa femme et il la tenait comme ça par l'épaule et ils étaient face à un terre-plein comme ça comme une falaise, enfin le et ils étaient avec le vent dans sa chemise, voilà, c'est des souvenirs du romantisme absolu, quoi. C'est vraiment la beauté, le charme, la justesse, l'émotion.
Quand la voix se mêle à la musique, mais de façon parlée, voici Pierre et le loup, interprété par Gérard Philippe, bien sûr, de Prokofiev.
Un beau matin, petit Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans les grands prés verts. Sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau ami de Pierre. « Tout est calme ici, gazouillait-il gaiement. » Thank you.
Pierre et le loup de Serge Prokofiev, interprété donc par Gérard Philippe à la voix et l'orchestre symphonique de l'URSS, oui, sous la direction de Gennady Rozhdestvensky. Et c'est un disque qui est sorti en 1956 au Chant du Monde et qui a bercé une partie de votre jeunesse, Catherine Ben Saïd. On va poursuivre avec un autre interprète, là, qui est un interprète d'opéra, Placido Domingo. On va écouter Nessun Dorma, mais je voulais vous interroger d'abord sur la passion de votre mère pour l'opéra, parce qu'apparemment elle adorait ça. Donc bien sûr il y avait l'interprétation, mais j'imagine que dans l'opéra ce qui l'intéressait c'était ces histoires d'amour.
Ah oui, effectivement, il y avait la musique, enfin le chant, puisqu'elle-même était chanteuse et qu'elle a pris des cours de chant et de piano très tôt. Elle avait une voix de rossignol, disait-on. Et donc, il y a effectivement le bonheur d'entendre la voix et aussi ces héroïnes, aussi bien d'ailleurs les héroïnes dans les opéras qui l'a touché beaucoup, et puis l'héroïne, si je puis dire, qui était la Callas, ou qui était effectivement Placido Domingo, c'est plus le charme, c'est le et Fischer Dieskau aussi, je me souvenais maintenant effectivement. Et ces héroïnes musicales, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais ont eu un rôle important dans sa vie, comme une identification à l'amour malheureux, l'amour absolu, l'amour sacrificiel, contre lequel je me suis révoltée d'ailleurs.
Oui, alors vous avez beaucoup écrit, vous, sur l'amour. Oui. Précisément, l'amour sacrificiel, vous êtes révolté contre. En revanche, selon vous, l'amour serait un but ultime à la vie. C'est là que se situe la vie, Catherine Ben Saïd.
Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que je ne me place pas dans ce même absolu que ma mère, parce que je crois que cet absolu dans la musique, il ne peut être proche que de la mort. Et c'est pas par hasard si toutes ces héroïnes meurent.
Oui.
C'est-à-dire que si on a une vision absolue de l'amour, on ne peut le vivre que dans la mort. C'est une vision de l'amour qui est une vision plus mature de deux personnes, je dirais, qui se sont libérées de leurs douleurs d'enfance et qui peuvent aller l'un vers l'autre, libérer des peurs, libérer des peurs d'être abandonnée, d'être rejetée, de pas être la personne qu'il faut, de pas être à la hauteur. Les révoltes aussi qui font que on est toujours en train de régler des comptes et pas en train de construire. Les rêves. Ma mère rêvait beaucoup, je crois. Elle rêvait d'un amour qui peut-être, comme d'autres personnes, n'appartiennent pas de ce monde. Et à partir du moment où ça ne correspond pas au rêve, peut-être que la musique est un lieu de ressourcement pour beaucoup.
Alors ici, on va écouter cet extrait du dernier opéra de Puccini, Turandot, qui se passe donc en Extrême-Orient, à Pékin. Et dans cet air qu'on va écouter, Nessun Dorma, Calaf est plongé dans la solitude. Il attend le jour où il pourra enfin conquérir le cœur de Turandot, la princesse de glace. Et ouais, il chante que personne ne dorme. Toi aussi, princesse, dans ta chambre froide, tu regardes les étoiles qui tremblent d'amour et d'espérance. Mais mon mystère est scellé en moi. Personne ne saura mon nom. Non, non, sur ta bouche, je le dirai quand la lumière resplendira et mon baiser brisera le silence qui te fait mienne. Et oui, là, c'est l'amour absolu du rêve et en musique.
Mystère qui vous en met.
l'air de Calaf Nessun Dorma, extrait de Turando de Puccini, interprété donc par Placido Domingo, et c'est l'Orchestre Philharmonique de Vienne et le chœur de l'Opéra d'État de Vienne sous la direction de Herbert von Karajan. Pour poursuivre avec vous, Catherine Ben Saïd, vous aviez un mot à dire sur ce Nessun Dorma, vous l'écoutiez, vous le chantiez d'ailleurs en même temps.
Oui, je me disais qu'un homme qui veut ouvrir le cœur d'une femme, oui. C'est vraiment ce qu'on ressent quand il chante, et c'est beau finalement.
On
chante pour transformer le cœur de glace, de pierre de Turandot en un cœur ouvert. Et je trouve que quand on l'écoute, vraiment, oui, effectivement, on a envie d'être dans ses bras, quoi.
Alors, on va poursuivre de l'autre côté, du côté de la femme, avec la Traviata qu'on va écouter dans quelques instants. Et on touche, je trouve, précisément à tous les thèmes qui sont abordés dans votre livre « Libre d'être femme », cette histoire de la légitimité, de l'abandon, de la liberté aussi, bien sûr. J'imagine que c'est un opéra que vous avez beaucoup écouté, qui vous intéresse beaucoup aussi dans cette perspective-là.
Oui, et d'abord c'est magnifique. Et puis le personnage de Violetta aussi est un personnage qui correspondait tout à fait à l'image sacrificielle de la femme et de l'amour. Et après, en le relisant récemment, je me suis dit que finalement, elle représentait ces femmes qui se sentent illégitimes à être aimées. Et c'est pas inintéressant qu'elle se sacrifie pour le père d'Alfredo qui finalement lui demande sacrifice pour sa propre fille. C'est-à-dire qu'il y a un père légitime qui légitime sa fille et elle n'est pas légitimée. Donc beaucoup de femmes peuvent s'identifier, même si c'est pas leur propre père. Elles se sentent pas avoir le droit à vivre l'amour. Et il suffit qu'il y ait un interdit. Là, il vient de son beau-père, si je puis dire, mais il peut venir de la société, il peut venir des aïeules qui n'ont jamais été heureuses, il peut venir de la religion, parfois. Il suffit du moindre interdit pour qu'on se dise « bon, non, c'est pas possible, c'est pas pour moi ». Le personnage aussi est un personnage qui apparaît libre, et d'ailleurs dans ce qu'elle chante, elle dit libre.
Sempre libera.
Sempre libera, de volupté en volupté, de joie en joie, finalement je ferai que ce que je voudrais à chaque instant. En réalité, elle aime Alfredo, et c'est pas ce qu'elle a envie de vivre, mais comme elle est convaincue qu'elle ne peut pas vivre son grand amour,
elle essaie
de se convaincre.
Elle revendique
une liberté qui n'est pas la liberté qu'elle souhaite au fond, parce que je pense que la plus grande liberté, c'est la liberté d'aimer. Et c'est bien ce que lui rappelle la voix d'Alfredo, au fond. C'est très beau quand il dit « Mais l'amour, c'est palpito da l'universo intero ». C'est cette palpitation de l'univers, au fond, ça vient d'ailleurs. Il est à la fois mystérieux et altero, et autre, et inconnu, et il croit, et bonheur. Et voilà, cette peut-être liberté aussi des femmes à l'heure actuelle qui pensent pouvoir se consoler d'une certaine manière ou que la vie, c'est cette liberté au quotidien, alors qu'au fond, la vraie liberté, c'est une liberté de pouvoir aimer et de pouvoir aimer en acceptant que l'amour ne soit pas absolu.
Interprétée par cette femme au destin tragique, l'amour assez difficile aussi, Maria Callas, qui interprète donc « Sempre libera », extrait de la Traviata de Verdi.
Il giorno muoia, sempre libera, ritrovi.
Libera de la Traviata de Verdi, l'acte 1 avec l'orchestre symphonique de, national de la RAI de Turin, Maria Callas dans le rôle de Violetta et Francesco Albanese dans le rôle d'Alfredo Germont pour parler de cette liberté qu'on essaye d'acquérir, Catherine Bensaïd, et qui n'est pas toujours simple à prendre, et cette vie de cette Callas, on l'appelle la Callas,
oui.
Au destin tragique aussi, on peut dire, en quelque sorte, qui pourrait être figuré tout à fait dans les figures de femmes que vous mentionnez. D'ailleurs,
oui,
vous parlez d'elle,
fait.
Je crois, un peu.
La Callas, en plus, ressemblait beaucoup à ma mère, ou ma mère ressemblait beaucoup à la Callas, physiquement.
C'est vrai.
Et ma mère se sentait très très proche d'elle, et proche surtout de ce destin où elle pouvait aussi bien être adulée que décriée, maltraitée. Cette difficulté finalement à donner le meilleur de soi, à, je dirais presque, donner un plaisir fou, voire un plaisir qui était tellement attendu que si elle ne l'apportait pas, on pouvait la haïr. C'était extrêmement passionnel. Et ma mère dénonçait d'ailleurs cette passion, dénonçait la difficulté que l'on pouvait avoir à donner le meilleur de soi-même pour finalement se voir finalement maltraité, malmené, abandonné, dès que ça ne correspondait pas exactement à ce que l'autre attendait. Ce qui l'empêchait d'ailleurs peut-être de se donner elle-même totalement, comme même dans la musique par exemple. Elle a jamais chanté, elle s'est jamais fait entendre. Elle a chanté,
par peur
elle a.
D'être mal entendue.
Je crois que oui, mais par conviction même qu'elle serait mal entendue.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Alors vous abordez deux questions difficiles, Catherine Bensaïd, à la fois la question de la liberté et la question d'être femme. Alors conjuguer les deux, c'est encore plus compliqué peut-être que d'être tout simplement libre ou tout simplement femme. Actuellement, on voit bien que ça le reste avec l'actualité de ces derniers jours. Vous avez voulu nous faire entendre une pianiste qui, elle,
oui,
a choisi la liberté à travers la musique, comme si la musique lui permettait en tout cas de rester libre dans sa tête.
Oui.
Il s'agit de la pianiste Su Xiao Mei.
Moi, je pense qu'effectivement, ça a été pour elle la survie de l'âme, la survie de son identité, puisqu'elle était assujettie au régime de Mao, même à la pensée de Mao.
Pianiste chinoise, donc.
Pianiste chinoise, voilà, qui a été enfermée pendant des années, qui était surdouée. Un petit prodige qui faisait des concerts très jeune. Et il y a quelque chose de très, très concentré, très, je dirais, un très bel axe dans sa manière de jouer. On sent qu'elle a réussi quand même donc à faire venir un piano
dans le camp
oui,
dans lequel elle était.
Et elle s'est jurée de recommencer à jouer.
Et alors, elle
jouer.
Jouait de la musique occidentale, alors que Mao avait interdit cette
Exactement.
Musique-là. Et elle disait au geôlier qu'elle jouait de la musique chinoise. Alors, on va l'écouter dans les variations Goldberg de Bach. Et avec, en tête, bien sûr, cette idée qu'elle s'est refaite
Disons qu'elle a survécu grâce à la musique.
Et d'ailleurs, elle le compare au Tao, hein, au taoïsme.
C'est-à-dire ?
Elle dit que jouer Bach, c'était comme proche d'une pensée taoïste.
On l'écoute donc dans l'aria des variations Goldberg de Bach. Vous savez, ces variations où finalement, il suffit de 4 notes pour pouvoir les varier 30 fois. Elles sont à la main gauche, c'est sol, fa dièse, mi, ré. L'aria des variations Goldberg de Charles Jean-Sébastien Bach, interprété par Su Xiaomei. Et c'est vrai que quand on écoute l'aria des variations Goldberg, on a toujours envie de chanter la suite.
Oui, exactement, c'est ça, ça me donne l'esprit. Voilà. Il connaît tellement par cœur.
Et donc, cette pianiste, aussi la pianiste de la résilience, comment la musique, j'imagine que vous devez l'entendre, que la musique permet aussi de passer des caps, oui. Transcender des états.
Je l'ai entendu aussi, j'avais envie de parler de cette femme qui s'appelle Alice Sommer-Hertz, qui est morte il y a 1 ou 2 ans, à l'âge de 108 ans, qui était dans les camps, et qui, grâce à la musique, a continué à faire du piano, a donné des leçons, a continué à faire du piano pour elle, pour son enfant, son fils, et qui a survécu non seulement dans les camps, mais après, parce que quand elle est... Elle est revenue dans... C'était à Prague, je crois. Elle a redonné des leçons de piano et des concerts. C'est comme ça qu'elle s'est refait une vie. Elle est repartie après en Israël. Et à nouveau, elle s'est refait une vie grâce à la musique. Et puis après, à nouveau à Londres, elle est partie à 93 ans rejoindre son fils. Et cette capacité que donne la musique, finalement, de vous accompagner en permanence. Et elle disait, quand je joue Bach, je flotte dans les airs. Elle disait aussi, la musique, c'est ma vie. La musique, c'est un rêve. Quand je joue, je suis au paradis. Et on devrait apprendre à tous les enfants à faire de la musique, parce que c'est un bonheur qu'on leur apporte. Et voilà. Donc, effectivement, la musique est aussi, pour tout le monde, je crois... pas toujours gay, c'est pour ça que c'est important que vous ayez mis un morceau gay au départ. Mais je crois que c'est pas par hasard s'il y a beaucoup de musique triste, parce que c'est aussi peut-être le lieu où on peut exprimer, vivre et dire son chagrin.
Sans les mots. Sauf à l'opéra, et on va poursuivre avec voilà. De l'opéra avec Wagner. Et d'ailleurs, Caroline Eliachef, hein, qui était là la semaine dernière, pédopsychiatre et psychiatre, racontait ici que la psychanalyse est née à peu près en même temps que l'opéra. Vous qui êtes psychiatre et psychanalyste, Catherine Bensaïd, ça m'intéresse de savoir pourquoi, par exemple, vous aimez tant Tristan et Isolde de Wagner et cet amour à mort qu'on va écouter, Liebestod, ouais. Où on fait se conjuguer l'amour et la mort.
Je crois que j'ai aimé ces terres sans le comprendre, très tôt.
Et
j'ai aimé ces terres. Pour moi, c'était... excusez-moi du terme, c'est un petit peu orgasmique. Quoi. C'était, voilà. Et donc, très tôt, j'ai cette mort, je trouvais que c'était un éloge à la vie et d'une puissance qui m'a touchée sans que je comprenne très bien, enfin, sans que je sache à l'époque même quelle était exactement l'histoire. Enfin, je savais qu'elle mourait, je savais un petit peu l'histoire de Tristan Iseux, mais bon, c'est... C'est ça qui est intéressant. Là.
Alors, on va écouter effectivement ce moment terrible, l'amour à mort. C'est un opéra donc que Wagner a écrit en 1857, après avoir lu Schopenhauer, percevant dans le renoncement, hein, dans la mort, l'ultime moyen de s'affranchir des limites de l'existence, évidemment, avec là, ici, Margaret Price dans le rôle d'Isolde. Et effectivement, sans avoir besoin de comprendre les paroles, on sent bien ce qui se joue. Liebestod, la mort d'Isolde, extrait de Tristan et Isolde de Wagner. Et pour vous dire, Catherine Bensaïd aussi, que vous pourrez aller voir Tristan et Isolde au Théâtre des Champs-Élysées du 12 au 24 mai. Ça sera interprété avec l'Orchestre National de France, donc qui est de notre maison, et le Chœur de Radio France sous la direction de Daniel Egatti. Et ça sera avec une mise en scène de Pierre Audi. Donc vous qui aimez tant cet opéra, ça sera peut-être l'occasion d'aller le voir. Et pour vous aussi, chers auditeurs, on va finir justement avec une mélodie, parce que vous le disiez tout à l'heure, vous disiez, Catherine Bensaïd, que au fond, vous n'aviez pas besoin de comprendre les paroles pour apprécier ce moment musical. Je crois qu'il en est de même pour la pavane pour une infante défunte.
Oui, dont une mélodie le titre, que je trouve magnifique.
Oui, dont le titre évoquerait éventuellement une danse pour une infante défunte. Or, pas du tout. Ravel s'est amusé sur une allitération, il trouvait ça très joli. Et là, effectivement, il n'y a pas de parole. Comment la mélodie peut-elle faire naître autant d'émotions, et est-ce qu'elle peut se transcrire en mots d'ailleurs, Catherine Bensaïd?
Mais est-ce que la mélodie, c'est pas justement ce que l'on disait tout à l'heure de l'interprétation? Finalement, la mélodie, c'est la mélodie d'une langue parlée. C'est la mélodie même de la langue chantée, je dirais, à travers l'interprétation. Donc la mélodie, c'est tout ce que... C'est l'âme de la personne, comme on dit, le regard aussi, est une manière de connaître tout ce qui émane de quelqu'un. La mélodie parle à notre cœur directement. Tout est mélodie. Effectivement, notre relation à l'autre. Je dirais que mon écoute, l'écoute de l'autre, en tant que psychanalyste, c'est la mélodie. J'entends les fausses notes, j'entends les silences, j'entends ce qui tout d'un coup n'a pas sens ou n'a pas de signification.
Donc vous écoutez largement au-delà des mots, vous écoutez ce qui se dit dans la façon de dire.
Exactement, et tout est dans la façon de dire. D'ailleurs, l'amour, c'est certainement une façon de dire. Et si on aime quelqu'un, c'est peut-être que l'on aime sa façon unique d'être, et de se dire, et de vivre.
Alors voilà, une musique, une mélodie qui va à contresens de son titre, Pavane pour une infante défunte, qui serait en fait une danse exécutée à la cour à l'époque de la Renaissance et qui n'a rien de la mort. Au contraire, il paraît qu'une princesse espagnole du XVIe siècle aurait pu danser dessus. C'est en version orchestrale sous la houlette ou direction de Daniel Barenboim. pavane pour une infante défunte par l'Orchestre de Paris et sous la direction de Daniel Barenboim, bien sûr, signé Maurice Ravel, Catherine Bensaïd. Et pour clore ce chapitre autour de la musique des femmes, de votre métier de psychanalyste aussi et de cette écoute que vous en avez de la musique, vous disiez quelque chose de très joli sur l'écoute que peut avoir une femme, ou en l'occurrence votre mère, de la musique.
Oui, c'est-à-dire que pour une enfant, l'amour d'une mère pour la musique, c'est très beau, mais elle est ailleurs, elle est dans le ciel, dans l'essentiel peut-être. Mais on aimerait une mère plus terrestre, dans un amour quotidien. Et je m'interrogeais pourquoi finalement on fait mourir tous ceux qui s'aiment, enfin dans les opéras. Peut-être que l'amour fait peur, l'amour est profondément désiré. Mais c'est une force finalement énorme entre deux personnes. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui va à l'encontre dans la société.
D'excluant ?
Oui, d'excluant, de dérangeant, de profondément dérangeant. Mais... ça fait rêver, mais c'est l'amour n'est pas toujours aimé. Et finalement, c'est... Je veux dire que... Ce qui est le plus difficile, peut-être, c'est de vivre un amour qui est un grand amour et de le vivre dans le quotidien. C'est ça qui est pas facile. Et on a l'impression que, aussi bien à l'opéra qu'au théâtre, on n'a jamais pu montrer ça. Parce qu'effectivement, si Roméo et Juliette se disputaient pour faire la vaisselle, ça perdrait. Mais sans ramener à ce quotidien qui serait un quotidien banal, il y a le quotidien qui est l'acceptation de l'autre dans ce qu'il est. Et c'est peut-être ça, dans cette liberté aussi, cette acceptation de ce que l'on est, de ce que l'on vit tel que l'on est, qui peut aussi accepter l'autre. Et à ce moment-là, l'amour peut se vivre. Et là, je crois que c'est une immense liberté.
Libre d'être femme, c'est le livre que vous avez écrit, Catherine Bensaïd, chez l'Iconoclaste. Un livre à recommander à tout le monde, pas qu'aux femmes d'ailleurs, aux hommes surtout peut-être.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Alors pour rester avec Daniel Barenboim qui dirigeait à l'instant la pavane pour une infante défunte de Ravel, on va continuer avec lui, mais au piano, le voici en duo avec le violoniste Yitzhak Perlman dans la sonate numéro 27 en sol majeur de Mozart, pour vous donner envie d'aller à la Maison de la Culture d'Amiens jeudi prochain. Mm-hmm. Écoutez la violoniste Hilary Hahn, oui, qui jouera en duo avec le pianiste Corey Smythe. Alors au programme, il y aura donc cette sonate, Jean-Sébastien Bach, Aaron Copland, Tina Davidson, mais voici pour vous donner envie d'y aller, à vous et à vous, chers auditeurs, la sonate numéro 27 en sol majeur de Mozart.
Thank you.
la sonate numéro 27 en ut majeur, KV 303 de Wolfgang Amadeus Mozart, interprétée ici par Yitzhak Perlman au violon et Daniel Barenboim au piano, pour vous inciter à aller à la Maison de la Culture d'Amiens jeudi prochain pour aller voir un très beau duo, Hilarion et Corey Smythe, pour une très belle soirée musicale, bien sûr. Catherine Ben Saïd, il me reste qu'à vous dire merci. Merci beaucoup d'être venue partager vos goûts musicaux. Et on a appris quand même que malgré la passion de votre mère pour la musique, vous avez aimé la musique toute votre vie. Vous continuez non seulement d'en écouter, mais d'en pratiquer.
Oui. Merci à vous.
Merci. Libre d'être femme chez l'Iconoclaste, signée Catherine Ben Saïd. Merci à Marianne Crimbaud, Camille Poux-Jalaguier, Claire Destacant et Alexandra Ramos del Silva. À la technique aujourd'hui, c'était Juliette Delperroux. Demain, nous recevrons le grand producteur de cinéma, vous savez, Jean-Louis Livy. Et puis, pour l'heure, c'est un rendez-vous avec vous, Charline Van Nunaker. Bonjour.
Oui, et c'est la passe décisive. Merci, Elsa Boublil.
On reste dans France Inter. Passe décisive avec Jacques Vendroux.
Et voilà.
C'est beau.
Exactement.
C'est pour ça que vous prenez cette façon de parler un peu footeuse là.
Oui, vous savez, je suis spécialiste en foot, hein, donc ça va être pointu. Enfin, je veux dire, heureusement qu'il y a Vizorek, par exemple.
Ouais, bon, très bien. Je vous souhaite une belle émission.
Merci,
Charline. À tout à l'heure. Ciao. Non.